essayait d'aller plus vite que la peine et que continuellement elle essayait de se dominer. Quand je l'ai connue, vue et entendue, ce n'était déjà plus les grandes années de Callas. Car il y a quelque chose de cruel dans la vie des chanteuses. Les pianistes, ils deviennent très grands à partir de 50 ans. Et les chanteuses, ou les chanteurs, ils commencent à avoir des problèmes à partir de 50 ans. Parce que la voix les lâche. Et à ce moment-là, il y a une sorte de domination, de maîtrise, de volonté de dominer le malheur. Et comme l'opéra, par essence même, c'est le principe des adieux, c'est moins un opéra qui se termine bien, à part les opéras du grand siècle, ça se terminait bien parce qu'on ne voulait pas faire de la peine au roi. Et elle était une reine, une grande reine romantique, qui a accepté le principe des adieux du grand répertoire romantique et qui est allée jusqu'au bout de la dramaturgie. Je crois qu'elle était seule. Je crois qu'elle était seule. Je crois que c'est une femme qui travaillait. Je ne le sais pas. Je crois que c'est une femme qui travaillait beaucoup. Ça se sent dans la voix, dans ce qui est livré au public. Il y a le travail opiniâtre, toujours recommencé, quotidien. Acharné, il y avait un acharnement, voilà. C'est une voix acharnée qui vient du vent.
Thank you.
Et encore une fois, je veux bien redire une chose. J'ai l'impression que ça n'est pas la perfection. Il y a quelque chose d'imparfait, d'hésitant et de douteux au sens du doute, au sens de du placement de la note dans les interprétations de Maria Callas qui en font toute l'émotion. Rien ne me paraît plus suspect qu'une voix d'airain parfaite, lisse, marmoléenne. C'est-à-dire tout sauf du Callas. Callas, c'est une hésitation perpétuelle et une domination perpétuelle, une recherche constante de la justesse. Elle est sur le fil de rasoir, elle est continuellement... On a continuellement l'impression que ce bonheur d'interpréter le malheur de toutes les héroïnes dont elle interprète le grand cri amoureux, on a toujours l'impression, à chaque seconde, à chaque millième de seconde, que cet enchantement pourrait se briser. De là, une sorte de certitude de l'interprétation et de fragilité constante de l'interprétation qui fait qu'elle demeure irremplaçable.
Yves Navarre pour Maria Callas, Passion d'écrivain, a été diffusé pour la première fois le 16 septembre 1987.
France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Du côté de la littérature et de l'art, Gaëtan Picon, une série d'entretiens signée Céla Minard, diffusée pour la première fois sur France Culture en mai 1975. Portrait de l'artiste en théoricien ou portrait du critique littéraire en artiste, quoi qu'il en soit, voici les deux derniers épisodes de cette série.
Cette contradiction existe pour nous beaucoup plus qu'elle n'a existé pour eux, dans la mesure où la culture qu'ils ont admirée était à ce moment-là culture secrète, culture clandestine, culture latente, n'est-ce pas, opposée à la culture manifeste, dont leur sens de la révolte, si vous voulez, n'est pas en contradiction avec leur sens de l'admiration. C'est nous qui... puisque nous ne disposons plus d'une culture clandestine, puisqu'il n'y a plus de culture latente, si vous voulez, c'est nous qui sommes sommés de choisir entre l'office culturel et la table rase, si vous voulez, entre le musée imaginaire de Malraux et l'art brut du Buffet, pour mentionner deux tentations qui ont pu être les miennes. Bon, mais je reprends alors mon propos où je l'ai laissé l'autre jour. Comment intégrer au surréalisme, qui se définit par l'extase de l'amour fou, par la spontanéité de la vie.
Vous avez reconnu dans le petit passage qui vient d'être diffusé, Gaëtan
Picot,
un extrait du cours que vous donnez actuellement à l'École pratique des hautes études et qui est consacré cette année au surréalisme. On en arrive ainsi, si vous voulez bien, à notre quatrième entretien qui essaiera de fixer votre personnage public. Je dirais, l'enseignant d'une part et puis le haut fonctionnaire que vous avez été jadis. Est-ce que vous êtes un bon professeur? Est-ce que vous aimez ce genre d'activité?
Je dirais que l'enseignement, qui a tenu une part importante dans ma vie, puisque j'ai débuté comme professeur de philosophie au lycée de Mont-de-Marsan, peu avant que n'éclate la Deuxième Guerre mondiale, et j'avais 21 ans ou 22 ans, enfin j'ai donc débuté très tôt, et j'ai pratiquement enseigné toute ma vie, j'ai gagné ma vie comme ça, sauf pendant les 7 ans où j'ai été, comme vous le disiez tout à l'heure, selon le terme consacré, haut fonctionnaire. Et alors, il m'est assez difficile de vous dire mes rapports avec l'enseignement, d'abord parce que j'ai enseigné dans des lieux divers, à des générations diverses et des matières diverses. Des lieux divers, c'est-à-dire j'ai enseigné dans la province, à Paris, et puis à l'étranger. Et mon expérience d'enseignant à l'étranger est quand même très différente. Elle bénéficie d'une auréole particulière. Puis j'ai enseigné à des époques diverses et j'ai vu se modifier les générations. Et puis j'ai d'abord enseigné la philosophie et maintenant, depuis assez longtemps d'ailleurs, j'enseigne la littérature et même l'art, puisque j'ai un cours d'histoire de l'art. C'est la chair et je ne suis pas peu fier d'en avoir hérité à travers toute une série d'intermédiaires, bien sûr. C'est la chair que Taine a occupée en 1863, et ce qui lui avait permis d'écrire et de publier ensuite sa philosophie de l'art. Et philosophie d'une part, et d'autre part le monde de l'art, c'est très différent. Je n'ai pas aimé enseigner la philosophie, et c'est même parce que j'ai enseigné la philosophie que j'ai cessé d'être philosophe. Peut-être je me suis aperçu que je ne croyais pas vraiment à ce que je disais. Et pour aimer enseigner, il faut deux conditions. Il faut aimer communiquer, convaincre, et ensuite il faut croire à ce que l'on dit. Et pour la philosophie, je pouvais avoir le même goût à communiquer que je peux l'avoir pour la littérature, mais je n'aime aucun livre de philosophie comme je peux aimer les livres de la littérature ou les œuvres de l'art. Par conséquent, je n'aime parler que de ce que j'aime, alors que philosophe, j'ai été obligé de parler de ce que je croyais croire, comme dit l'autre, enfin, de ce que je croyais penser, et pour moi c'était beaucoup moins chaleureux, beaucoup moins important.
Mais là, vous aimez parler du surréalisme.
C'est-à-dire que j'aime le surréalisme. J'aurais préféré parler du surréalisme il y a 20 ans.
Vous avez donc rompu tout rapport avec la philosophie.
Oui, personnellement peut-être, mais de mes souvenirs que j'évoquais de prof de philo, ne tirez pas cette conclusion que j'approuve, par exemple, la diminution de l'importance de la philosophie qui est prévue dans la réforme dont on parle aujourd'hui. Ce qui était absurde dans l'expérience que j'ai faite, c'était de parcourir d'un pas aussi rapide et aussi léger la totalité des problèmes en allant de la mémoire à Dieu en passant par l'espace et le temps, etc. Mais autant est douteuse, à mon avis, la philosophie comme ensemble encyclopédie de connaissances, ou plutôt de pseudo-connaissances. Autant elle est importante comme apprentissage de la réflexion. Je crois que seul l'enseignement de la philosophie peut permettre la production de ces anticorps si nécessaire aujourd'hui contre les épidémies de la pensée totalitaire, contre tous les glissements de l'hypothèse à la certitude auxquels nous assistons, et pas seulement sur le plan politique, sur le plan, je dirais, des sciences humaines. Sans l'histoire que Michelet appelait séditieuse, terrible, séditieuse, et sans la philosophie, je crois qu'il ne peut pas y avoir dans une société un apprentissage de la liberté et de libre citoyen, par conséquent.
Est-ce que ces jeunes gens et ces jeunes femmes que j'ai vues autour de vous, aux hautes études, sont des disciples ?
Ça, je n'oserais pas le dire, parce que j'ai un enseignement essentiellement non dogmatique. Je pense quand même qu'ils sont chez moi plutôt qu'ailleurs, parce que justement je parle de cela d'une façon non dogmatique et que j'essaie de communiquer l'expérience d'un lecteur attentif sans doute, et même d'un relecteur. Les livres dont je parle, je les ai sondés, je les ai regardés, traversés dans tous les sens, mais c'est avant tout une expérience de lecteur amoureux qui est la mienne. Donc ceux qui m'écoutent n'attendent pas des renseignements sociologiques, n'attendent pas que je développe une théorie de la littérature au sens actuel du mot, c'est-à-dire une théorie de la littérarité. Ils n'attendent pas de moi que je démonte le mécanisme des choses, que j'aboutisse à des figures générales du discours. Je crois qu'ils attendent de moi que je les rapproche du feu auquel, personnellement, je me suis réchauffé.
Oui. Est-ce que vous, à votre tour, vous attendez de ces cours un matériau qui, par la suite, pourrait devenir un livre, par
exemple ? Eh bien, peut-être. Ça, c'est une question de temps, vous savez, parce que la forme de communication orale n'est pas du tout la forme d'expression écrite. Et depuis 1966, année où j'ai été nommé directeur d'études à l'école des hautes études, comme on ne répète jamais la même chose, comme il faut se renouveler, faire un cours inédit, j'ai accumulé de nombreux dossiers, mais ce sont des dossiers dont la rédaction reste à faire. Et alors j'ai promis justement à une collection dirigée par mon ami Yves Bonnefoy, dont je vous parlais l'autre jour, une collection chez Flammarion qui s'appelle Idées et recherches, je lui ai promis un livre intitulé provisoirement « La réflexion des œuvres » que je constituerai, si j'en ai le temps et la possibilité, avec tous les matériaux accumulés dans ces cours.
Mais est-ce qu'il y a un courant qui passe d'eux à vous et de vous à eux ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des échanges ? Est-ce qu'il y a communication ? Ou est-ce que plutôt vous leur déverser un savoir, un regard, une qualité de lecture peut-être, qu'ils se contentent de recevoir?
Vous savez, on a fait mai 68 pour que les cours ex cathedra soient supprimés, pour que l'enseignement soit remplacé par un dialogue entre l'enseignant et les enseignés. Je crois que si ça ne marche pas, c'est-à-dire si les cours ex cathedra ont repris, c'est la faute beaucoup moins des enseignants que des enseignés. Ce sont les enseignés qui ne se prêtent guère au dialogue. Et je dois dire que là, j'ai une expérience très très nette, qui ne juge pas leur aptitude à dialoguer, mais qui juge simplement leur pudeur ou leur timidité. Il n'y a jamais aucun dialogue dans le cours, mais les questions qu'ils ont à me poser ou les objections qu'ils ont à me faire, ils les réservent pour les entretiens particuliers qu'ils me demandent. Voilà. Ouais, enfin, ouais. Il n'y a pas de dialogue en public, mais il y a des échanges en privé.
Non, parce que j'essaie de cerner ce temps que vous consacrez à l'enseignement. Et je pensais aussi, bien évidemment, au temps que vous avez passé dans l'administration, aux arts et lettres. Quelle sorte de temps était-ce pour vous?
C'est difficile à dire. Là, j'avais surtout l'impression de ne plus avoir de temps. Le temps n'existait plus. C'était la
temps peau. Mort.
C'était la peau de chagrin. Non, ce n'était pas. J'en garde finalement un souvenir chaleureux, mais je ne disposais plus de moi-même, ce qui est en un sens une bonne chose. Mais après, il ne faut pas que ça dure toute la vie, et le besoin de faire raison ensuite se fait sentir.
Non, mais je rapproche ces deux activités qui, à première vue, n'ont pas grand-chose en commun, simplement parce que ce sont vos deux manifestations publiques, essentiellement, et que je voudrais bien, si c'était possible, en tirer un enseignement, peut-être.
Oui, et puis ce sont les deux manifestations non narcissiques, évidemment. Ce sont les deux manifestations de ma vie dans lesquelles j'ai dû me tourner vers les autres. Vers les autres sans intermédiaire dans l'administration, vers les autres dans l'enseignement, avec l'intermédiaire des heures de préparation que je passe seul dans mon bureau avec mes livres, mais avec la représentation de l'interlocuteur. Lorsque vous me parliez du souci que je pouvais avoir du public ou du lecteur dans mes livres absolument personnels, et je vous répondais que pour moi ce souci était quand même moins important que pour d'autres, et je crois que je n'ai pas menti, je vous dirais alors que si je le sens ainsi, c'est peut-être parce que dans l'enseignement, comme dans la préparation de conférences, si vous voulez, là, je ne fais rien qui ne vise un interlocuteur. Je pense à celui qui va m'écouter. Et je ne dis pas tout ce que je pense, de la manière dont je le pense. Je n'y mets pas d'obscurité. J'essaie d'expliciter au maximum la confusion intérieure dont je pars, puisque quand même c'est ce que je pense d'eux, les impressions de lecture que j'ai à propos d'eux. Mais je suis un mouvement qui va vers l'extérieur, alors que lorsque j'écris pour moi, je suis au contraire un mouvement de repli. C'est pour cela que peut-être, comme j'ai l'expérience de ces deux mouvements contraires et certainement incompatibles d'ailleurs, je suis obligé de me nettoyer de l'un pour passer à l'autre. C'est peut-être pour cela que, écrivant les deux livres personnels dont vous me parliez et commençant à écrire d'autres livres personnels que j'espère mener à bien, je sens justement se dissiper, je sens disparaître l'interlocuteur précis auquel je me suis adressé toute ma vie.
Et comment est-ce que c'est arrivé, cette nomination à la tête des arts et des lettres? C'est Malraux qui vous avait fait
uniquement, ça c'est mes vieilles relations, une vieille amitié avec Malraux. Et quand il a été nommé ministre des Affaires culturelles, il a pensé que j'étais peut-être capable d'être le directeur général des arts et lettres. Il l'a pensé parce qu'il savait que, bien sûr, je savais qui était qui dans le domaine des arts et des lettres, mais aussi parce qu'il avait quand même deviné en moi un certain goût pour, disons, une expérience d'action au moins une fois dans ma vie.
Et vous avez laissé quelle trace précise?
Ah, ça, il faut, oui. Je me suis fait des amis, je me suis fait des ennemis, naturellement. J'ai accompli certaines choses. J'ai préparé la disparition de la direction générale, d'abord, qui a disparu peu de temps après moi. C'est une satisfaction. Non, mais j'avais fait un plan visant cette suppression, parce que c'était un monstre. J'étais à la tête d'un monstre. Il fallait s'occuper de tout. C'est de cette dispersion que je garde finalement un mauvais souvenir. J'aurais gardé un bien meilleur souvenir, par exemple, d'une direction limitée au secteur plastique, si vous voulez, ou à la caisse des lettres. Enfin, ça, c'était une petite chose. Mais enfin, ouais. Tandis que là, vraiment, il fallait aller du théâtre à la musique, de la musique à la peinture, de la peinture à la danse, que sais-je, enfin.
Est-ce que c'était aussi mondain qu'administratif?
Là, il y avait un côté mondain, bien sûr, oui.
Et est-ce qu'au fond, ces questions de l'organisation, qui est un mot fâcheux s'appliquant à la vie culturelle, vous intéressent?
Et à certains problèmes m'ont vivement intéressé. Et je dois dire que, bon, je peux le dire parce que ceux qui sont au courant de l'affaire le savent, j'ai été un peu à l'origine quand même de la création de Beaubourg, si vous voulez, dans la mesure où j'avais soumis à Malraux, bien avant mon départ, un plan de transformation du musée d'art moderne. Il m'était apparu qu'il était absurde de confondre le musée d'art moderne avec un département ordinaire du musée du Louvre, c'est-à-dire d'avoir à sa tête un conservateur qui pouvait être nommé à 40 ans et demeurer l'homme de l'art moderne jusqu'à 70 ans. Et j'avais envisagé la création de quelque chose qui aurait été détaché des musées, qui n'aurait pas été soumis de la même manière au statut normal de l'administration publique, avec une rotation de la direction, enfin un directeur nommé pour 6 ans. Et je dois dire que ce projet, rencontrant beaucoup d'autres préoccupations, n'a pas été étranger à la création de Beaubourg. Et d'ailleurs, quand on m'a demandé, quoique je sois tout à fait ignorant en architecture, de figurer dans le jury d'architecture qui a choisi le projet de construction, on s'est souvenu de cette part que j'ai pu avoir à l'origine. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, mais enfin ça c'est entre parenthèses, que j'approuve, les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, le transfert total du musée d'art moderne au centre Beaubourg. Mais enfin ça c'est une question technique.
Oui. Non mais elles vous intéressent ces questions techniques
aussi. Beaucoup,
les questions
oui,
de fonctionnement.
Oui, mais oui. Enfin je ne dis pas que ça m'intéresserait tous les jours. Si ça m'intéressait tous les jours, je serais quand même resté sans doute dans l'administration.
Oui. Mais il y a par exemple aujourd'hui une question qui émeut beaucoup les gens, c'est celle du statut de l'écrivain. Est-ce que cet aspect-là de la chose vous a préoccupé? Est-ce que vous êtes soucié de penser que l'écrivain ne pourrait être peut-être d'une certaine façon fonctionnarisé? Enfin, non pas bien sûr comme dans certains pays de l'Est où il est rétribué mensuellement par une union des écrivains quelconques, mais enfin qu'il pourrait gagner un statut social. Est-ce que ce sont des questions qui vous ont assailli?
Mais oui, c'est une question qui se posait de mon temps et nous n'avons cessé, et je dis nous parce qu'il y avait le secrétaire de la Caisse des Lettres à ce moment-là, nous ne cessions de faire des démarches auprès du ministère des Finances, n'est-ce pas? Mais le ministre des Finances étant devenu le président de la République, j'ai l'impression qu'en tant que président de la République, il fait un meilleur accueil à ses doléances qu'il ne le faisait quand il était ministre des Finances. Parce que nous avons passé les 6 ou 7 ans que j'ai vécu là-dedans, chaque année nous revenions sur ces problèmes-là. Naturellement, je n'ai jamais souhaité un statut de l'écrivain qui le fonctionnarise, et même l'idée d'une retraite de l'écrivain me semble quelque chose d'un peu étrange. Mais il faut, cela va sans dire, essayer de lui rendre la vie possible. Il faut qu'en écrivant, il puisse sinon gagner complètement sa vie, du moins la gagner partiellement.
Ça n'est pas le cas du tout, là.
Non, non, certes.
J'aurais bien voulu qu'on dise un mot de vos voyages qui ont été nombreux.
J'ai été dans des pays un peu particuliers. J'ai vécu quelques années au Liban. Et puis, j'ai vécu également à Gand, où j'ai été dans un milieu de francophones, un petit maquis de francophones, ce qui ne m'a pas empêché de m'informer et d'obtenir certaines informations que je n'aurais pas obtenues si j'étais resté à Paris sur la littérature de langue flamande. Puis alors j'ai passé une année en Italie où là les rapports étaient plus positifs avec la littérature italienne. C'est ce qui me sent cette année en Italie. Je n'aurais pas été sans doute le lecteur d'Ungaretti que j'ai été. J'ai écrit une étude sur lui. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé. C'est un poète que j'ai beaucoup admiré. Sans cette année italienne, je n'aurais pas connu comme je l'ai connu Montale ou alors des poètes plus jeunes, enfin, ou plus exactement de ma génération, comme Mario Luzzi ou Piero Bigongiari. Là, l'Italie m'a beaucoup appris.
Mais vous étiez aux États-Unis aussi, vous avez enseigné à Princeton.
Oui, il y a 4 ans, j'ai fait un séjour à Princeton, mais là,
Alors, les États-Unis, ça, je crois que c'est une rencontre, quand même.
Oui, mais une rencontre un peu dans l'imaginaire, comment dire. Je n'ai sur place rien appris que je ne sache déjà. Je ne parle pas l'anglais et j'ai beaucoup lu de romans traduits de l'américain, dont je suis arrivé là-bas avec des kilomètres de pellicules de films américains dans ma mémoire et de très nombreuses pages de romans américains aussi dans mon souvenir. Ce qui fait que pour moi, New York est une ville un peu irréelle. Je parlais de l'Italie tout à l'heure et je ferai un rapprochement qui paraîtra bizarre entre une ville comme New York et une ville comme Florence. C'est-à-dire que ce sont deux villes que j'ai reconnues plus que je ne les ai vues. J'ai deux lieux que j'avais l'impression d'avoir déjà vus avant de les rencontrer réellement. Ce sont deux lieux que j'ai approché à travers une médiation culturelle, peinture italienne et film ou roman américain. Et j'ai passé 4 mois étranges à Princeton à faire un cours sur Racine, enfin je veux dire à être dans la culture française la plus française.
Mais est-ce que ces mois étaient étranges parce qu'ils vous ont sorti un peu de vous-même ou pas du tout? Vous êtes
resté spectateur. Non, mais Princeton n'est pas un lieu qui ait pu me sortir de moi-même. Si j'avais été à Berkeley, certainement, où j'ai fait aussi un rapide passage à Harvard, et là j'ai vu une université grouillante où le moment actuel se précise dans sa différence avec les souvenirs que je peux avoir de mon temps. Tandis que Princeton est une enclave un peu archaïque. J'avais là des étudiants très distingués, mais très peu nombreux, et qui étaient en quelque sorte venus là se réfugier pour ne pas être plongés dans le chaos, le bruit, le vacarme des campus vraiment, vraiment vivants, peut-être. Alors, parlant de Racine avec ses étudiants, dont étrange, certains oui. se préparaient à être des spécialistes de la littérature française au XVIIe. J'avais même un futur médiéviste. Je vivais là dans des conditions très, très irréelles. Et moi, j'essayais d'apprendre les nouvelles, tout de même, parce qu'il y avait des événements qui se passaient il y a 4 ans, en déchiffrant le New York Times, mais mes étudiants ne le lisaient même pas. Et me reprochaient d'ailleurs d'aller passer mes week-ends à New York, au lieu d'aller à la campagne ou à Montréal. Ils me conseillaient d'aller à Montréal. Ouais. Naturellement, je ne les ai pas écoutés.
Alors, les résonances de tout ça, on l'a évoqué un peu dans le désordre, mais tout de même, le souvenir de... Enfin, le souvenir, c'est très présent encore, bien sûr, mais l'après-goût de cette activité publique est en piquant.
Ça, je ne sais que vous répondre. Ce n'est pas seulement... Ce n'est pas seulement un souvenir que je garde, c'est peut-être une tentation aussi que je garde par moment. Enfin, je suis très double par rapport à, non point à cette expérience une fois faite, mais à un renouvellement éventuel d'une telle expérience. Il y a des moments où j'ai envie de fermer mes livres et mes cahiers, où je pense aux mots merveilleux de Claudel dans Tête d'or. Et les livres ne sont que du papier. Et puis, il y a des moments où je me souviens avec horreur de la multitude des rendez-vous, de l'épuisement des soirées, etc. Où je me souviens avec plus d'horreur encore des rendez-vous avec le ministère des Finances. Et alors, je suis quand même alors là très heureux de rester avec mes livres qui ne sont que du papier.
Non, je veux dire, cette incursion dans la vie publique n'aurait jamais pu déboucher, par exemple, sur une activité politique. Parce que là, peut-être auriez-vous eu le sentiment d'une efficacité au premier degré plus rassurante que les autres.
Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est quand même parce que je m'étais approché d'une certaine frontière politique que Malraux a eu l'idée de faire appel à moi. Je me suis toujours beaucoup intéressé à la politique. Je n'ai jamais trouvé ma politique, si vous voulez, sauf pendant les années de guerre où c'était clair, où c'était simple, mais et après ça n'a plus été possible. Et alors là, il y a une certainement chez moi, comme chez beaucoup de gens de ma génération, une déception historique, une déception politique.
Votre déception historique.
Oui, eh bien, cette déception historique, c'est beaucoup de choses. Bien sûr, c'est le fait que nulle part nous n'avons rassemblé, réuni ce que nous avions voulu en même temps, à savoir la justice et la liberté, disons en gros. C'est le fait que nous avons cessé aussi d'être, nous, en France et même en Europe, le sujet de l'histoire. Nous sommes devant des problèmes d'organisation, mais l'histoire, avec la majuscule, l'histoire avec sa rumeur et son espoir, roule très loin de nous. Et surtout, je songe peut-être au désaccord entre ma génération et la génération actuelle dans laquelle on aimerait bien sûr se reconnaître. Comment dire ? Pour nous, il y avait... Parmi le mal, bien sûr, un bien. Il y avait des feux qui brillaient devant nous et l'avenir, ça consistait pour nous à les rejoindre. Et je pense aux œuvres, à la culture, à une certaine qualité de l'esprit et de la vie. Mais ces feux se trouvaient menacés. Nous avons aimé sous la menace. Et notre premier geste, par conséquent, et c'est un premier geste qui nous marque, a été de préserver ce que nous n'avions pas encore rejoint. Aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus menacées, au moins de l'extérieur, de la même manière, mais elles se sont comme usées, filochées, dégradées de l'intérieur. Elles ne sont plus objets de désir, si vous voulez, et on les juge complices du système, du mal. On fait une sorte d'amalgame qui confond l'or et la boue. Très souvent, les jeunes gens d'aujourd'hui en qui on aimerait se reconnaître n'aiment rien de ce qui est, et c'est pour cela qu'ils aiment tant que l'on retourne l'étoffe, ou bien ils aiment que l'on montre l'usure, la trame, ou bien alors ce qu'ils aiment, c'est une étoffe invisible qui n'a pas encore de nom. Et nous, nous avons aimé et nous aimons encore ce qui a un nom, quelque chose qui nous avait été dès le départ non point donné, mais indiqué, révélé.
Mais jamais la tentation chez vous de l'action immédiate.
Non, ça ne s'est pas... Mais en réalité, quand j'étais étudiant, je faisais de la politique, j'aimais beaucoup parler dans les meetings. C'était une autre époque. La guerre venait, il fallait être fasciste ou antifasciste. Si on était antifasciste, il fallait savoir si le moyen de l'être, c'était d'être pacifiste ou d'être belliciste. Moi, j'étais belliciste, j'étais pour qu'on fasse la guerre des Munich, etc. Et j'avais bien raison. Il y a longtemps que l'envie m'a passé de participer à quelque chose qui ne peut déboucher que sur une autre organisation, sur une autre planification économique. La politique qui m'a intéressé, c'était une politique du conflit des idéologies, n'est-ce pas ?
Voilà. Oui, en somme, les actes ne vous intéressent pas aujourd'hui, mais les idées, oui, sans doute.
Oui, seulement à l'heure actuelle, ce n'est plus mon problème. Enfin, je vois les jeunes gens qui sont... dans la ferveur politique comme j'y étais avant 1940.
Ce n'est tout de même pas seulement une question d'âge, l'intérêt politique.
Non, mais la scène s'est déplacée. Non, mais je dis, la scène s'est déplacée. Ceux qui aujourd'hui réagissent aux problèmes politiques ne peuvent, aux problèmes idéologiques de grande dimension, si vous voulez, ne peuvent le faire qu'en s'identifiant à l'étranger, au lointain, qu'en s'identifiant à des Chinois ou à des Nord-Vietnamiens. Eh bien, ça, c'est une identification que je comprends très bien, mais dont je ne peux pas accomplir, parce que moi, j'ai eu l'habitude que ces problèmes-là se posaient pour moi. Je n'avais pas à m'identifier à un autre, j'avais à répondre présent ou absent. Alors, il y a une sorte de gel politique dans notre entourage immédiat. Et on ne peut faire de la politique qu'en rêvant un ailleurs, n'est-ce pas ? Et ça, je ne suis plus capable de le faire. Et ce qui nous reste, à savoir la vie politique au jour le jour, ne m'intéresse pas.
Et puis après tout, peut-être que l'hexagone vous suffit.
Bah, l'hexagone me suffit, mais il ne s'y pose plus aucune question qui me semble intéressante. Enfin, la dernière question intéressante, ça a été la fin de la guerre d'Algérie, chose que le général a menée à bien, c'est tout.
Je me narguerais bien, Gaëtan Picon, ce prétexte qu'on en arrive à présent au dernier de nos entretiens, de tirer des conclusions, puisque plutôt qu'un portrait, j'ai essayé de donner de vous ici une succession d'instantanés. Et j'espère que l'auditeur, après cela, voudra bien les rendre moins fugitifs en allant enquêter seul dans vos livres les réponses qui lui manquent. Tout de même, il me semble que ce que ces entretiens nous ont montré, c'est un homme seul, ou peut-être solitaire. Vous n'appartenez à aucun groupe, ni à aucune école. Vous avez à plusieurs reprises souligné la distance qui vous séparait des autres. Et bien évidemment, je vous demanderai maintenant s'il s'agit là d'un choix délibéré.
Mais non, il ne s'agit pas d'un choix. Et puis, est-ce que je suis si seul que cela? Je ne crois pas. J'ai beaucoup d'amis, je connais beaucoup de monde. Chaque jour, j'ai un carnet de rendez-vous plein. Ce qu'il y a peut-être, c'est qu'en effet, je n'appartiens à aucun groupe, à aucune école. Et quand je parle du surréalisme, j'ai la nostalgie d'un moment où j'aurais pu être dans le groupe. Peut-être pas sûr d'ailleurs, parce que le côté manifestation un peu puéril m'aurait sans doute écarté. Enfin, j'aurais eu quand même sans doute des objections aussi à la mise en commun de certaines choses. Mais enfin, malgré tout, il y avait une possibilité d'adhésion et je ne vois pas très bien ce qui pourrait remplacer un groupe comme celui-là aujourd'hui. Et alors, ce qui fait ma solitude, si vous voulez, ce qui fait mon éloignement, ce sont mes relations avec des milieux et des personnalités qui n'ont entre elles rien en commun. C'est ma dispersion, en un sens, qui fait ma solitude. Oui. Avec l'un, je partage ceci, avec l'autre, je partage cela. Alors, je n'ai pas trouvé, je ne trouverai sans doute pas, le milieu, un milieu aussi déséquilibré, aussi complexe que je le suis, peut-être, n'est-ce pas? Il y a, avec mes meilleurs amis, il y a toujours des moments de silence, parce que nous savons que nous ne nous accordons pas. Mes poètes préférés n'ont pas mes peintres préférés n'ont pas mes poètes préférés, etc. Et même sur le rapport qui a toujours été très important pour moi entre politique au sens vaste du terme et réflexion philosophico-littéraire, etc., je dois dire que j'ai très peu d'amis avec qui je puisse mettre en commun exactement cette attitude-là.
Mais si on essayait de cerner votre chez-vous, quel serait-il?
Il y a une certaine mosaïque, et c'est pour cela...
Est-ce qu'on peut essayer de fixer ce paysage intérieur qui est...
Il y a une pluralité. J'ai été toujours à la fois résolu à défendre cette pluralité et tourmenté par elle. Pluralité esthétique politique, par exemple. C'est pour cela que j'ai été fasciné par les orthodoxies et que je les ai tenacement refusées. Peut-être que là, toute ma pensée, mon attitude a été un combat destiné à me préserver d'une certaine tentation de l'orthodoxie, de tout ce qui m'aurait permis de sacrifier une part de moi-même à l'autre, n'est-ce pas ? Il m'est assez difficile de porter jusqu'au bout des exigences très diverses et très contraires, et d'une certaine manière j'aspire peut-être encore à être délivré d'une partie de ces exigences par une force simplificatrice, qu'elle soit politique ou religieuse, par exemple. Bah, si j'étais croyant, le problème serait beaucoup plus simple, serait résolu depuis longtemps. Je suis en même temps incapable d'adhérer à une certitude globale, à une certitude totale, et assez incapable aussi d'assumer dans la légèreté et dans l'allégresse la condition de la dispersion.
Est-ce que en disant dispersion et multiplicité, vous ne déguisez pas au fond un certain déchirement?
Il y a le mot de Rimbaud auquel je pense souvent. À chaque être, plusieurs vies me semblaient dues. Il me semblerait que l'on mériterait plusieurs vies, qu'une seule, c'est vraiment un habit trop étroit. Déchirement, peut-être pas, parce que, le ton de mon livre le plus personnel, Un chant de solitude, est un ton peut-être de mélancolie, mais pas de déchirement. Parce qu'il y a une certaine complaisance, sans doute, dans cette désunion, dans cette inquiétude. Il y a une mélodie de l'inquiétude et de la dispersion à laquelle je m'attache. Il y a une certaine complaisance à cela. Si ça avait été un déchirement, si ça avait été frappé d'un accent plus fort et plus dur, j'en serais sorti. Si je n'en sors pas, c'est sans doute que je me plais dans ce lieu.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y a déchirement entre le désir de déchiffrer le sens de la création et en même temps celui de poursuivre la vôtre, hors de tout regard, bien sûr, entre le besoin d'agir sur les événements du monde et le « à quoi bon » qui certainement vous arrête quelquefois, entre le désir d'exister parmi les hommes et finalement une dispersion qui interdit la plupart des vraies relations avec eux. Tout ça, vu de l'extérieur, bien sûr, en quelques instantanés, comme je disais là, apparaît pourtant.
Oui, il y a une difficulté d'être, bien sûr, sans quoi je n'écrirais pas. Tous les gens qui écrivent vraiment sont des gens qui ont quelque chose à... Il y a un blanc dans leur vie qu'il faut combler, bien sûr. Mais déchirement est quand même un mot que je ne mérite pas, un sens enfin qui est trop fort pour moi, parce que il y a une certaine sensualité dans ma difficulté d'être. Je regrette de ne pas avoir plusieurs vies, je regrette de ne pas pouvoir mener de front. Je sens cruellement l'incompatibilité théorique de certaines choses, mais surtout l'incompatibilité physique, parce qu'on ne peut pas être ici et là en même temps. Mais lorsque je choisis, lorsque je m'en tiens à ceci ou à cela, le regret de ce que j'ai perdu devient quand même pour moi un peu un motif musical dont je peux m'enchanter, auquel je peux me plaire. Et ce que je fais arrive malgré tout à me fixer suffisamment. Vous savez, sur le registre de la sensualité, disons qu'il est un peu romantique. Enfin, c'est chez les romantiques que je me sens le plus à l'aise. On ne peut pas dire qu'il y ait du déchirement chez Chateaubriand. Il y a un peu cette même difficulté d'être et cette façon de résoudre en musique, enfin, de transformer en musique. Je ne me sens pas chez moi dans les œuvres d'Artaud. Je ne me sens pas chez moi dans les œuvres de Bataille. Il y a quelque chose de trop fort et de trop noir. Je ne me sens pas à l'aise chez les mystiques, pas plus que chez les orthodoxes de la politique. C'est cette musique délicieuse de l'impossible plénitude, de l'impossible bonheur qui est au fond ma musique préférée.
Et le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'il
ça c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose. Là, je parlais uniquement de mes expériences personnelles telles que j'aurais pu les faire. Et alors là, c'est le problème des rapports entre une expérience d'écrivain, de critique, et une expérience de militant ou de politique. Bon, c'est vu de façon égoïste, narcissique. Est-ce que j'aurais aimé être un militant politique? C'est une question narcissique, ça, ouais. N'est-ce pas? Bon, et alors là, je crois que je vous ai répondu. Mais alors, le problème non narcissique, le problème objectif, comment je me sens dans le monde tel qu'il est, et ça, c'est autre chose. Et il est évident que là, je m'y sens mal.
Mais enfin, mal dans le monde d'aujourd'hui.
Je ne suis pas le seul. Et que là, je ne peux plus, la musique de l'impossible, la musique du regret ne marche plus. Et que là, vraiment, pour écouter ma propre musique, je suis obligé de fermer les yeux. Enfin, là, échapper au cauchemar de l'histoire, comme dit Joyce, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et il m'arrive de ne même pas lire un journal pendant des semaines. Et là, il y a quelque chose qui est volontairement fermé chez moi. C'est peut-être le seul point sincèrement douloureux, si vous voulez. Et le sentiment d'être dans une époque qui ne vous convient pas, est un sentiment beaucoup plus fort. Et pourtant, lorsque je vous dis échapper au cauchemar de l'histoire, c'est peut-être mon attitude, elle n'est pas vraiment sincère, je n'y échappe pas, j'essaie d'oublier ça, mais je ne l'oublie pas. Et toute ma vie, j'ai essayé d'écrire, parce qu'enfin, je n'ai jamais pensé être capable d'être un chef de parti politique, et bon, toute ma vie, j'ai pensé que tout pour moi finirait par se réduire à du papier.
Oui.
Et bien, à plusieurs reprises, j'ai écrit des textes politiques, si vous voulez. Et pour une raison ou pour une autre, ces textes n'ont jamais vu le jour, ce qui prouve que je ne peux pas écrire sur l'événement, je ne peux pas écrire sur ces choses-là. Je n'ai pas publié ce livre auquel je tiens quand même, que j'ai gardé, qui s'appelle « La vérité et les mythes », que j'ai écrit pendant la guerre, et qui était un effort pour délimiter le champ de ce qui doit rester vérité et le champ de ce qui peut être mythe, c'est-à-dire on organise un système économique et social qui est un système juste, et pour organiser ce système juste, il faut qu'il y ait non seulement une organisation mais une mythisation de la chose, n'est-ce pas? Il faut qu'un comme il y a dans le marxisme, il y a quand même un mythe. Eh bien, quel est le prix que l'on peut consentir? Jusqu'où peut-on aller? Alors, je trace. Et alors, sur le plan politique, on peut beaucoup consentir. Je crois que je ne suis pas du tout un libéral, en ce sens que je suis prêt à retrancher beaucoup de ma liberté politique pour un système non seulement juste, mais excitant, mais exaltant. Mais la Terre tourne, et on ne peut pas nier qu'elle tourne. Mais une sensibilité plastique existe, on ne peut pas nier qu'elle existe en dehors de ce système-là. Alors c'était le domaine que j'appelais celui de la vérité. Et je ne l'ai pas publié après la guerre, parce que tout à coup la couleur des choses a brutalement changé. C'était sans doute un livre qui allait trop loin dans le sens d'une orthodoxie politico-marxiste, enfin un peu.
Pourquoi n'écririez-vous pas quelque chose sur ce décalage entre
vous
et le temps ?
Oui, et après, j'ai commencé peut-être cette malchance qui doit avoir sa raison, qui doit avoir sa logique, sera-t-elle écartée ? J'ai commencé un livre où je voudrais parler sur le ton, qui est celui d'un chant de solitude, sur un ton absolument personnel, des problèmes communs, des problèmes...
Vous l'avez commencé maintenant, récemment ?
Je l'ai commencé il y a quelques semaines, oui, un livre que je pourrais appeler « Commune mesure », n'est-ce pas, et qui serait le volet historique par rapport au volet personnel, n'est-ce pas, d'un chant de solitude. Mais... est-ce que l'on peut écrire un livre comme cela, sur ce ton, c'est-à-dire avec tout soi-même? Si je n'arrive pas à l'écrire, ça signifiera que ce ne sont pas des questions que j'éprouve avec tout moi-même, et c'est possible. Thank you.
Il y a dans votre livre, dans l'usage de la lecture, dans le premier tome, je crois, une observation très, très saisissante et peut-être désespérée. Enfin, tout au moins, m'est-elle apparue ainsi, sur l'impuissance de l'écrivain moderne. On est là dans les livres que vous n'avez pas écrits, mais que vous écrirez peut-être, à condition que vous y croyiez, je pense, jusqu'au bout. Et c'est ce déclic qui m'intéresse là. Qu'est-ce qui fait, ce n'est pas seulement une question de temps, je crois, qu'en commençant une œuvre qui s'annonce bien, elle en vient si vite à être abandonnée?
Oui, il semble que vous me reprochez un peu de chercher des alibis pour ne pas écrire vraiment,
oui.
Peut-être. Mais alors, disons que c'est un problème tout personnel qui n'est pas intéressant parce qu'il est purement personnel et il ne devient intéressant ce problème que s'il rejoint un problème général. Alors, je crois qu'il rejoint un problème général. Il y a une difficulté moderne, une difficulté actuelle d'écrire. Je dis bien difficulté et il faut distinguer cela de la vanité d'écrire. Aujourd'hui, il y a difficulté. Pourquoi? Eh bien, il était simple d'écrire quand il y avait des règles. Règles de la tragédie, règles de la versification, loi du roman, quand le roman se forme au XIXe siècle, et puis Sartre encore récemment avait cru trouver les lois du roman, etc. Et c'était simple d'écrire quand il s'agissait d'exprimer soit des objets nouveaux, par exemple le Paris de Balzac, soit des objets saisissables, nettement découpés, par exemple, la jalousie, un amour de Swann, même, c'est relativement simple. Tout change quand il n'y a plus de règles, quand il n'y a plus de genre, mais seulement une écriture. Écrire un roman, c'est plus simple qu'écrire un X, dont on ne sait pas ce que c'est. Et tout change quand les objets nouveaux ont été décrits, que l'on ne peut pas répéter cette description, et quand les objets, ou les sujets, si vous voulez, bien découpés, ont été saisis. Et alors on pense qu'écrire, c'est autre chose qu'exprimer un objet préexistant. On est plus soutenu par un modèle, si vous voulez. Bon. Alors qu'est-ce que c'est qu'écrire? Eh bien, ça sera dans ces conditions écrire l'écriture. Et alors, c'est ce qu'envisage Flaubert quand il parle de faire un livre sur rien, un livre qui tienne par la seule vertu du style, comme la terre tient dans l'espace. Ou alors, écrire plutôt, ça sera écrire pour faire apparaître ce qui se tient derrière les objets bien découpés. Quelque chose de plus obscur, de plus fondamental, qui n'est pas donné au départ. C'est en ce sens, par exemple, que Cézanne peut prononcer, ou on lui fait prononcer, je ne sais pas, cette phrase saisissante, « J'ai voulu unir les mains errantes de la nature ». Donc, on part du vide et on peut s'enliser dans le vide. Néanmoins, j'éprouve pour ma part le besoin violent de l'œuvre, le besoin violent du corps second, comme je l'ai appelé, qui, je ne dis pas prolonge, mais sauve le mien. Seulement, il faut écrire dans l'étroite fente qui sépare le déjà lu de l'illisible, au fond. C'est-à-dire, il faut écrire entre la redite des objets déjà dits et une diction sans objet, la diction d'un langage libéré et plus sûrement que libéré, je dirais vidé et oiseux. Il faut trouver les mots pour parler de ce dont on a toujours parlé, de la seule chose qui vaille qu'on en parle, comment dire, la relation énigmatique, je dirais, entre l'absurdité et l'émerveillement d'être au monde. Mais on n'a jamais fini de parler de cela, parce que cela, c'est toujours plus loin que les apparences saisies, dans une distance qui recrée constamment notre désir.
Mais ne pensez-vous pas, Gaëtan Picon, que dans une époque comme celle d'aujourd'hui, où il y a tant de choses qui dégringolent et d'autres qui se remettent en place, et il y a du bruit et il y a de la fureur, que ce serait tout simplement une retraite splendide que de s'enfermer avec sa feuille et son stylo, que je veux dire, on n'a presque pas besoin d'autre chose, en ce sens que les autres choses semblent se détacher d'elles-mêmes, et que cela, vous pouvez le sauver, cette feuille et ce stylo, et que c'est justement une tentation plus grande aujourd'hui qu'il y a 10 ans, peut-être, celle-là.
Alors, il y a 10 ans, le problème était exactement le même, Mais vous m'encouragez aimablement à écrire, mais je ne vous ai pas dit que je n'écrirais pas. Simplement, aujourd'hui, chacun le sait, les résistances sont plus grandes qu'elles n'ont été. On part malgré tout de la page blanche, tandis que au XIXe siècle, on ne partait pas de la toile blanche, on ne partait pas de la page blanche. Écrire, c'était exprimer quelque chose, c'était mettre sur le papier une histoire que l'on s'était déjà racontée dans la tête, que l'on avait racontée aux amis ou que l'on avait lu dans le journal. Écrire était exprimer en quelque sorte quelque chose de préexistant selon des cadres préexistants. Tandis qu'écrire, pour nous, n'est plus cela. Les choses ont commencé à se compliquer à partir du moment, au fond, Flaubert, Cézanne, où cette réflexion est venue. Flaubert dit « il ne faut pas